l'entretien littéraire de Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. J'ai l'honneur aujourd'hui de converser avec l'auteur de bande dessinée Ludovic de Boerm, qui publie cette rentrée le roman graphique « La cendre et l'écume » aux éditions Cornelius. « La cendre et l'écume », ce sont 300 pages au trait d'une histoire intime entre arbres qui tombent, jazz manouche, des parents en musique et en peinture, un album qui retrace une intimité au crayon dans une forme magnifique d'autobiographie où le dessin devient quête de soi, récit de soi, trace, ainsi les cercles concentriques d'un tronc d'arbre coupé. On affronte le deuil, la naissance et la relecture de sa propre enfance dans une quête en image de celui que nous avons été quand nous jouions au Playmobil ou regardions notre père travailler. Bonjour Ludovic de Boerm.
Bonjour Mathias.
Ludovic de Boerm, vous êtes auteur de bande dessinée. On vous doit notamment les 3 volumes de la série Epiphania, paru aux éditions Casterman. Vous avez été récompensé par un Fauve Essentiel au Festival d'Angoulême en 2007 et le prix René Goscinny pour Lucille chez Futuropolis en 2007. Vous publiez des albums régulièrement aux éditions Cornelius, maison qui a vu vos débuts en 2002 avec Céphalus. Et cette rentrée paraît donc, toujours chez Cornelius, La cendre et l'écume, autobiographie graphique. Ludovic de Boerm, qu'est-ce qui fait que l'on décide un jour de se dessiner, de s'utiliser comme personnage?
Mon deuxième livre après Céphalus, édition Cornelius, s'appelait Ludologie, en toute simplicité, la science de moi-même. Et c'était autobiographique. Et je m'étais dit à la fin de cette bande dessinée que je n'en referais plus jamais. Que c'était plus simple de faire d'autofiction, éventuellement, ou en tout cas de se décrire sans forcément se nommer. Et puis là, je me suis retrouvé à... qu'on pourrait dire, je voudrais pas dire entretenir, mais en tout cas m'occuper d'un jardin avec ses arbres, avec ses plantes, et un jardin fait de granit, de terre, donc pas droit. C'est important pour l'histoire, il est tout sauf horizontal. Et puis un jour, je me suis cassé la figure en scooter, suffisamment violemment pour qu'on m'interdise d'arpenter ce jardin. Et c'était l'enfer, parce qu'en fait, je m'étais redécouvert, alors je sais pas que parisien, mais j'étais quand même bien parisien. Je m'étais découvert dans ce jardin, à l'arpenter, à le creuser, à tailler le granit, à faire 1000 choses avec ce truc qui me donnait aussi un espace et un corps. Et d'un seul coup, je ne pouvais plus y aller. On m'avait indiqué à peu près 6 mois, quoi. Donc pour moi, ça me semblait vraiment un effondrement. Et donc, j'ai abandonné momentanément la bande dessinée sur laquelle j'étais pour commencer à dessiner des pages et me représenter sur ces arbres. Et puis, en tirant un peu cette petite ficelle, est arrivée la bobine de tout ce qui a donné le livre. Mais c'était pas du tout prémédité et j'avais absolument pas l'intention de refaire, de commettre à nouveau une bande dessinée autobiographique.
Donc, ce que l'on voit qui sont les premières planches du livre, vous sur une branche d'arbre, une tronçonneuse à la main, ça, c'est réellement le premier dessin que vous ayez fait de cette
aventure. Ouais, alors, j'ai pas tout de suite la tronçonneuse. Au début, je suis un peu plus délicat. Je suis avec une scie et j'essaye de rattraper les mauvaises tailles.
On a l'impression d'une blague d'ailleurs, parce qu'on voit quelqu'un qui est en train un peu de scier la branche sur laquelle il est assis.
Je sais pas la branche sur laquelle tu es assis, mais effectivement, on n'est pas loin de la blague de toute façon dans tout ça, puisque je suis un Parisien qui redécouvre les arbres, qui s'y intéresse et qui essaye d'apprendre de manière passionnée et investie. Quoi. J'ai remplacé tous mes livres de philo ou de psychanalyse par des livres de permaculture, de maraîchage. Et, enfin, c'est juste un changement de monde. Quoi. Oui, c'est complètement une blague en même temps. Et en même temps, c'est tout à fait réel et investi.
Alors commençons justement par ce jardin, puisque c'est par là que s'ouvre le récit, cette maison, et on y revient à plusieurs reprises, et c'est aussi ce jardin qui donne une indication un peu de la forme que vous avez choisie, notamment du rapport aux courbes et ainsi de suite, qui est un peu là tout le temps. Comment est-ce que vous êtes arrivé alors justement à dérouler le fil à partir de ce jardin?
Je pense que la bande dessinée a cette particularité de faire appel à l'ellipse. Il y a ce vide entre les cases, qui est quand même l'endroit du lecteur, quoi, où son imaginaire doit combler ce vide. L'ellipse, c'est un peu aussi ce moment que me rappelle la cure psychanalytique, en fait, le moment où on va associer des idées d'une idée à une autre. Il va falloir combler des vides, et puis en fait, ces vides sont remplis. Et de fait, la bande dessinée se trouve être assez appropriée pour aller d'un sujet à un autre, tout en gardant une espèce de fil conducteur qui est induit par la mémoire, en l'occurrence, puisque c'est l'autobiographie, ce qui est très différent finalement du rapport, même si la fiction on peut se servir de la mémoire, mais là on est vraiment dans quelque chose comme ça, une forme de débit, où on est plutôt dans la rétention d'informations, c'est-à-dire qu'on doit filtrer ce qu'on raconte, parce que tout n'est pas raconté, tout n'est pas intéressant, et on est quand même en train de raconter aussi une histoire qui va être lue. C'est le principe même aussi de la bande dessinée versus, par exemple, un art tel que la peinture contemporaine, une certaine idée d'un archétype de la peinture qui serait en dehors du regard, qui serait d'une liberté absolue, quoi.
Mais justement, alors, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous avez imaginé déjà ce récit avant de le dessiner? Ou au contraire, est-ce que c'était vous laissiez guider un peu justement, comme dans la cure psychanalytique dont vous venez de parler, par association d'idées?
Oui, absolument, c'est ça. J'ai plusieurs manières de travailler. Vous savez, en bande dessinée, il y a des règles, hein, comme ça, on peut les suivre ou pas les suivre, comme dans tous les arts ou toutes les pratiques. Moi, en général, on fait un scénario, ensuite on fait un découpage, ensuite on fait un crayonné, ensuite on fait un ancrage. Enfin, ça peut être très laborieux. Moi, j'ai commencé en ne faisant pas de crayonné, en ne faisant pas de scénario, en ne faisant pas de découpage. Mes premiers livres, c'était comme ça. Ça m'est arrivé parfois à des moments d'avoir besoin de faire ce qu'on appelle un découpage. C'est comme une sorte de storyboard de film pour éclaircir quelques points, des endroits. Ça m'est arrivé pour Epiphania. J'avais écrit le scénario, en tout cas en grande partie, dans les grandes lignes, et puis des choses qui sont complétées. Là, c'est très différent. Littéralement, je commence par un dessin et des mots, et des mots amènent d'autres dessins, des dessins amènent des mots. Enfin, il y a une espèce d'acceptation que ce qui va suivre est induit par ce qui précède et que ça doit fonctionner.
Et pourtant, ce qui est fascinant, c'est que justement, le livre va quelque part. C'est-à-dire que ça avance, pas du tout chronologiquement, mais très réellement vers une fin qu'on ne va pas dévoiler, mais qui a justement à voir avec ce rapport entre la cendre et l'écume. C'est assez magique, alors, comme façon de faire, en fait.
D'arriver à trouver une fin qui sonne bien. Après, on peut y avoir des trucs, mais pour donner l'illusion qu'une fin ait été amenée de manière habile. Mais non, je pense qu'en fait, depuis le départ, vous avez cité Céphalus, j'ai vraiment fait confiance à cette espèce d'onirisme. Mes rêves sont très construits en général. Donc finalement, des rêves éveillés donnent parfois des histoires avec une construction intrinsèque. Après, il y a vraiment cette histoire aussi que j'ai redonné vie à des personnages que je n'ai pas connus, comme le père de ma mère qu'elle avait perdu quand elle avait 5 ans, qui était une espèce de grand-père mythique comme ça, architecte, avec des histoires vraies, des histoires certainement fausses. Et moi, je me suis moi-même construit des histoires à partir de ça, de documents, de choses que j'ai retrouvées. Et la possibilité qu'il apparaisse, de lui donner un corps et une existence, c'est un pouvoir un peu magique du dessinateur.
Ludovic de Berme, vous avez choisi des pôles, ou en tout cas, ils se sont imposés à vous, que sont bien sûr vos deux parents, la fin de leur vie, et vous, votre enfance, et puis vos grands-parents. Et ça s'est fait aussi d'une façon très naturelle, comme ça, au fil du crayon, vous êtes retrouvés à vous dessiner, vous, enfant, dans votre apprentissage, aux côtés de votre père et votre mère.
Oui, je ne me suis pas posé énormément de questions. Quand j'ai écrit Epiphania, c'était vraiment un geste militant. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, là, il se passe quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, en tant que petit dessinateur de bande dessinée? Certainement un ratage, mais on va quand même essayer. Là, j'avais envie d'aborder la question autrement. Mais il y a quand même ce rapport à ce qu'on pourrait appeler la nature, même si c'est un vilain mot occidental, mais en tout cas, c'est le mot qu'on utilise, qui me guidait. Donc, me représentant dans la nature, j'en arrive à mon enfance, passée aussi en partie dans les arbres de la baie de Somme. Quand je dis dans les arbres, en fait, contre les arbres. J'avais cette espèce de rapport intime où je serrais les arbres contre moi, mais il n'y avait rien de mystique. C'était juste une espèce juste d'intuition d'enfant, de serrer des arbres pour finalement que leur écorce devienne ma peau. J'avais besoin de m'abriter et leur donner des noms. Ce que je raconte, c'est que j'ai cherché ces arbres plus tard. Le plus terrible, c'est bien sûr de ne pas les avoir retrouvés, mais d'avoir oublié leur nom. Et cette espèce de drame du fait de grandir et de voir que même ces arbres qui semblent être multicentenaires peuvent parfois disparaître. Et ce qu'on a vu, ce qui m'a foudroyé cet été, cette sécheresse étonnante, hallucinante, qui a fait que les stomates, les pores des feuilles des arbres, d'un seul coup, se sont clos.
Vous commencez au début par vous rendre compte du poids d'un arbre, justement. Quand vous l'écoutez, vous dites, ah non, là, il y a une vraie matière, quelque chose dont j'ignorais tout et qui vous apprend beaucoup, finalement.
Oui, un chêne, parce que là, ils prennent très cher, hein. En Normandie en tout cas, ils vont être de moins en moins adaptés. Et donc, un chêne tombe dans le jardin du voisin par-dessus une rivière, enfin, c'est l'enfer. Et c'est mon premier contact quoi, avec le réel de la campagne adulte. Et je dois débiter cet arbre, je ne peux pas le fendre tout de suite, j'ai pas envie d'attendre. Et donc, je me retrouve à remonter comme ça sur 6 mètres de dénivelé, à créer un chemin et puis le remonter. Et là, je me dis, mais oui, effectivement, en fait, un arbre, c'est cette espèce de puissance qui vient d'être foudroyée, qui s'est abattue, donc une puissance qui d'un seul coup s'est dissipée. Et là, t'es en train de ramener morceau après morceau, bio après bio. Et à la fin, quand même, bon, je suis une espèce de satisfaction de les avoir remontés en haut. Puis après, il a fallu les débiter. Puis ensuite, ils nous ont chauffés. Et c'était très impressionnant d'ailleurs de voir qu'un chêne, ça chauffe très très bien, beaucoup mieux que d'autres essences. Alors, bon, ça c'est vraiment la façon dont aussi l'homme interagit avec son arbre.
Alors Ludovic de Berme, la cendre et l'écume, c'est surtout le récit de votre enfance et de vos parents et de votre éducation auprès d'eux. Et est-ce que ça a été sans doute émouvant que de revenir sur la vie de ce père que vous avez déjà évoqué par ailleurs?
Oui, c'était émouvant, surtout que, comment dire, mes parents avaient 20 ans d'écart, ma mère était plus jeune, et tout était écrit, et mon père ne cessait de le répéter, pour que ce soit mon père qui parte avant elle. Donc il a été aussi lui-même complètement atterré, subjugué par cette perte soudaine. Mais donc j'avais fait l'expérience, c'était pas ma première perte dans ma vie, mais ça a été une perte quand même, perte de ma mère. Donc la perte de mon père a été vécue un peu différemment, avec, je dirais pas avec légèreté, loin de là, mais il était plus âgé, avec une forme d'acceptation. Donc bien sûr que c'est émouvant de parler de mon père, mais c'est plutôt en fait une façon aussi de retrouver un lien qui était vraiment objectivement complexe. C'était artiste peintre, il avait des rapports comme ça, assez conflictuels, il m'avait interdit de peindre, il pouvait avoir des mots très très durs.
Oui, oui, ça on le lit dans le livre, hein, c'était pas n'importe qui, il était d'une dureté, par moments assez terrifiant.
Une dureté, puis quand il était bourré, il était ultra tendre, enfin voilà, c'était un personnage hautement complexe, assez truculent, qui m'a permis de quand même de glisser de l'humour dans ce texte qui ne parle pas que de la mort des gens et des arbres. Mais ce qui était très émouvant pour moi, par exemple, c'était justement de, après avoir raconté le décès de ma mère, juste la page d'après, de la montrer à 20 ans, secrétaire de Maurice Martenot, l'inventeur des ondes Martenot, voilà, et puis de la méthode Martenot-Willems, et puis raconter comment elle est devenue pédagogue grâce à Maurice Martenot, qui découvre un jour qu'elle est aussi musicienne, et de passer de cette vision morbide, définitive, et de pouvoir la faire revivre à une époque où je ne l'ai moi-même pas connue et réinventer cette histoire, ça c'est magique, ouais.
On reviendra tout à l'heure sur le personnage de votre mère, mais j'aimerais qu'on reste un petit moment sur le père, et justement le père dans votre enfance, et parce qu'il y a quelque chose, peut-être un motif graphique qui permet justement aussi un des fils rouges de l'album, c'est les courbes. Uh-huh. Et ce moment justement où votre père vous dit que ce qui compte, c'est les courbes.
Ouais. Mais mon père était obsédé par la courbe. Il y a une espèce de quête comme ça. Enfin, c'est même pas la courbe parfaite, quoi. C'était quelque chose lié au geste, voire à la respiration. Il allait comme ça de... autant de la figuration jusqu'à l'abstraction, à travers comme ça une recherche permanente de courbes. Et ce que je raconte, c'est qu'une courbe, c'est toujours un peu un truc raté, quoi. C'est-à-dire, finalement, c'est un peu comme si on essaye de faire un rond parfait, on va un peu se planter. Alors, faut accepter que la courbe ne soit pas si courbe que ça, ou en tout cas qu'elle ait ses imperfections. Et moi, enfant, ce que j'avais trouvé, c'était une espèce de règle. Il y avait des ronds qui suffisaient de suivre, enfin comme un sort de compas, quoi. Et là, je me retrouvais à faire la tête d'un personnage avec des ronds parfaits, quoi. J'avais finalement, j'étais plus fort que papa, quoi, qui cherchait toujours à faire ses courbes. Et après, plus tard, je me suis rendu compte que, par exemple, j'ai fait beaucoup d'apnée puisque j'ai commencé très tôt, à 7 ans. Enfin, c'était comme ça que j'ai découvert la mer par l'intérieur, pas par le dessus. Et en fait, on imagine souvent l'apnéiste descendant à la verticale en allant le plus rapidement possible au fond, quoi. Mais en réalité, on peut aussi longer le fond à l'horizontale, mais on peut aussi faire justement des courbes et être dans une espèce de flot comme ça. Moi, je pense qu'en fait, la courbe est absolument essentielle et peut-être aussi une autre façon de parler du chemin de traverse ou de l'idée de ne pas aller prendre la ligne la plus droite. Et en même temps, elle n'a de sens que si elle est liée ou si elle est mise en valeur par des droites, qu'elles soient horizontales ou verticales.
Mais il y a aussi quelque chose de très courbe dans cet album, justement, parce que la courbe, c'est un peu aussi une métaphore du temps, en quelque sorte. Oui. Quelque chose qui ne va pas directement d'un point à un autre. Et le livre est conçu exactement comme ça, par des courbes. Il y a cette histoire de bambou que vous courbez dans votre jardin pour faire toutes sortes de choses, justement dessiner avec des courbes dans la nature même. Donc on a peut-être l'impression que ce livre, sans ces planches, sans gaufrier, sans cases, sont justement l'expression même de la courbe, quoi. Finalement, il y a très peu de lignes droites.
Oui, c'est, je pense, une espèce de temps quantique qui correspond un peu à ma façon de réfléchir, malgré moi. Enfin, je pense que j'ai pas du tout une pensée pyramidale ou verticale, mais assez horizontale comme ça, où toutes les choses d'un seul coup arrivent en même temps. Et j'ai appris, à sélectionner, à choisir à l'intérieur. Forcément, la courbe, c'est le moyen d'aller d'un endroit à un autre. Et si en plus on peut imaginer qu'on peut être à deux endroits en même temps, c'est une véritable courbe elliptique. Et c'est en même temps, bien sûr, ça c'était très puissant pour moi comme renaissance après ses pertes, avoir un terrain où l'herbe avait été tondue année après année, donc une certaine stérilité, le remplir de courbes, donc avec des bambous, avec des tracés, de techniques différentes, enfin, de dessiner à l'intérieur et de le remplir de vivant, d'aider la nature à pousser et on peut l'ordonner aussi, c'est l'idée du maraîchage, c'était magique. C'est-à-dire que pour la première fois, au lieu de donner une vie symbolique à travers mes livres, j'ai aidé à donner naissance à une vie réelle.
L'entretien littéraire de Mathias Sénard.
de bien vous raconter comment vous êtes formé justement devant le chevalet de votre père, enfant, en le regardant justement ouais. tracer ses courbes et vous en faisant vos premiers dessins.
Il m'a montré quelques trucs, mais il avait été très fâché parce que, par exemple, au moment où je m'étais intéressé à la peinture à l'huile, je lui avais demandé, il me dit, oh, tu prends de térébenthine, tu vas débrouiller. Et j'étais allé voir un de ses amis, parce qu'on était en cité d'artistes, spécialiste de la peinture médiévale et qui m'avait montré tous les trucs. Et mon père était devenu dingue. Il me dit, pourquoi tu m'as pas demandé? Je dis, mais je t'ai demandé. Et donc, oui, j'ai appris en le regardant presque malgré lui, quoi, derrière son épaule. J'ai appris aussi, ça, je m'en suis rendu compte pendant ce fameux confinement où j'ai décidé de rénover cette petite maison de pêcheur au bord de la falaise et où je me suis retrouvé comme ça sur cette échelle.
Ça, c'est la dernière partie du livre.
Ouais, on n'est pas dans une chronicité très conduite. Je me suis rendu compte que mon père, sans m'avoir montré, même plutôt pas montré, ses gestes d'artisan, parce qu'il avait été aussi artisan, il avait fait pas mal de trucs. Mais en fait, à force de le voir gâcher du ciment ou tailler du bois, enfin, mais tous ces trucs-là étaient en moi, quoi, étaient dans mon ADN, et puis je me suis découvert une espèce d'habileté pour ces trucs-là.
Mais il y a une scène d'enfance terrible, d'ailleurs, enfin, que moi je trouve d'une violence inouïe, ouais. C'est au moment où il vous dit, si tu veux m'aider, bah, tu peux gâcher le ciment, alors que vous êtes enfant, et c'est très bien que vous n'allez pas y arriver. Ouais. J'ai trouvé ça très, très dur.
Oui, c'est pour ça aussi que je parle de mon grand-père, du père de mon père, qui venait du nord de la France, il travaillait pas dans les mines, mais, enfin, ça s'appelait un fumiste. Voilà, il nettoyait les cuves, enfin, c'était un métier vraiment, vraiment dur. Il a fait travailler mon père très rapidement. Toutes les histoires que j'ai, je dis, ah oui, mais mon père a essayé d'être moins dur, en fait. Donc, il était dur. Bref, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre, c'était de montrer la filiation au-delà de mes parents, de remonter un petit peu plus loin. Et je raconte à travers des choses quand même qu'on m'a transmises, qu'on m'a dites.
La Première Guerre mondiale, par exemple, ouais. Les gueules cassées, ces réunions de gueules cassées qui sont absolument fascinantes.
Mais oui, parce que les peintures de mon père, il a eu plusieurs périodes, mais il a peint réellement des gueules cassées, quoi, enfin des monstres. Je veux dire, je sais pas si c'était assumé dans sa tête, pensée ou quoi. Mais par contre, quand il me racontait ces histoires où il se retrouvait enfant, quoi, avec son père, donc qui avait fait Verdun, et qu'il allait aux réunions de gueules cassées, lui-même il avait pas la gueule cassée, et mon père était terrifié, quoi. Et en même temps, son père lui dit, mais il faut que tu aies du respect, c'est des héros, quoi. Donc ça, moi j'avais ces images en tête. Là, pour le coup, on est vraiment dans une mémoire très précise de quelque chose que j'ai pu imaginer et qu'à un moment je trouve intéressant de raconter parce que ça permet aussi de raconter ce grand-père et de l'imaginer, lui, que je n'ai vraiment pas du tout connu.
Oui, puis ça dit quelque chose justement de l'impossibilité du désir, c'est-à-dire que ces hommes auxquels votre grand-père raconte ses conquêtes sexuelles en profitent parce que justement, eux, ils sont empêchés par leur gueule cassée. Et ça, c'est absolument magnifique. Et cet enfant qui est là est témoin, mais ne doit évidemment rien dire. Donc il est dans une espèce de silence qui ne ressortira que par l'image.
Exactement. Oui, c'est mon histoire aussi. Hein. Je veux dire, mon père me racontait ses conquêtes. Enfin, je veux dire, il n'a pas tellement dévié du chemin. J'étais juste pas convoqué à des réunions de gueule cassée, quoi. Mais je veux dire, j'ai grandi avec ça, donc j'ai pu assez bien imaginer ce que ça pouvait être qu'être cet enfant qui reçoit toutes ces informations qu'il doit cacher, dont il est témoin. Mais là, j'ai imaginé cette discussion. C'est une discussion où il raconte, mais elle est plausible. Et effectivement, il raconte à ceux qu'on imagine ne peuvent plus séduire de femmes avec leur gueule déformée. Et puis ce père aventurier, voilà, qui les fait rêver et qui dit le môme, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est une tombe, il n'y aura rien.
Donc le passé, il y a quand même un peu de fiction, même si c'est un peu vous transposé.
Bien sûr, parce que c'est absolument parcellaire. Ce passé m'a été raconté, c'est un passé qui est fantasmé. Alors, mon père me disait que son père ne lui avait que très peu parlé de la guerre. Je raconte par exemple une anecdote, ça c'est une véritable anecdote que je ne vais pas dévoiler. Enfin, mais j'ai deux numéros de l'illustration qui sont assez emblématiques de la Première Guerre mondiale, où on voit à la fois des scènes mais abominables en noir et blanc, qui côtoient les grands généraux, qui sont eux en couleur. Enfin, ça c'est des choses qui me sont restées, qui ont été transmises et que mon grand-père religieusement, je savais compulser. Enfin, il y avait une mémoire, mais très peu de choses racontées, et il y avait juste quelques petites histoires. Et j'en ai choisi une qui me semblait assez emblématique de cet épisode effroyable, quoi. Qui raconte aussi la violence du présent, parce que voilà, en fait, fondamentalement, l'histoire m'intéresse, mais enfin, le reste de l'histoire, ça ne présente plus d'intérêt.
Ludovic de Berme, un grand moment aussi, enfin un moment clé de votre éducation, votre arrivée à la bande dessinée, c'est ce moment où vous êtes étudiant et dans la classe de sculpture aux Beaux-Arts et où un professeur détruit ce que vous avez fait parce que c'est trop classique, trop bien fait, trop figuratif. Et là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose aussi d'une très grande violence qui se joue là pour vous.
Oui, la période de fac a été si violente que pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de dessiner. Je me suis mis vraiment complètement à la musique. Enfin, j'ai passé ma vie à jouer de la musique. Ben oui, j'étais dans une fac très hegélienne, avec la vieille garde de l'art conceptuel pur, éventuellement du body art. Et là, je tombe sur un prof vraiment connu pour être un dur, quoi. Un dur, puis c'était une masse. Il était hyper impressionnant. Et il arrive, et puis j'étais en train de faire cette espèce de petite figure à la Daumier. Enfin, je me disais, bon... Puis je voyais les gens tasser des clous dans leur côté, commencer à faire des installations. C'est le premier cours de sculpture. Hein. Moi, j'ai 17 ans, quoi. C'était un peu surréaliste. Donc, et le mec vient, et puis, sans un mot comme ça, effectivement, il écrabouille ma petite sculpture. Et là, je me dis, mais soit je me barre, soit je vais pas lui péter la gueule parce que là, il va me défoncer, de toute évidence. Mais, je m'engueule avec lui. Et puis, je choisis de recommencer, quoi. De m'obstiner. Et je refais. Donc, le mec revient. C'est bizarre, ce type. Et il me dit, mais t'as pas le droit de faire ça. C'est fini, tout ça. C'est fini, ces petites figures. Ça n'existe plus. C'est pas ça, l'art contemporain. Je dis, je sais pas, pour moi, là, juste, je commence par le début. J'en suis pas, Et ça, l'a travaillé. Et le cours d'après, donc, il me prend la main, comme ça, c'était très étrange. Il me saisit la main. Et puis, bon, j'étais un peu dur avec toi, D'Artagnan. J'avais les cheveux longs et puis un bouc. Il regarde mes mains comme ça et puis il me dit « t'as des mains de pianiste ». J'étais pas du tout pianiste, ma mère était pianiste et je me mettais à peine à la guitare, quoi. Et je sentis qu'il y avait une espèce d'enjeu hallucinant qui était derrière cette question. Et je sais pas, j'ai eu une espèce d'intuition comme ça. Je dis, oui, je suis pianiste. Il dit, pianiste de jazz? Donc, je me laisse un peu guider par ses propres questions. Je fais, oui, pianiste de jazz. Et puis là, je commence à lui parler de Thelonious de ce monde, etc. Enfin, je commence à broder Bill Evans. Et d'un seul coup, je suis devenu une espèce de héros. Je dis, oui, non, mais bon, là, j'ai pas trop le temps. Mais bon, effectivement, moi, je donne beaucoup de concerts. Enfin, allez. Donc, je suis passé du mécréant qui fait des petites figures à la Daumier au pianiste de jazz que je n'étais pas.
Oui, mais pourtant, c'était pas complètement mentir parce que vous avez non seulement une réputation au piano par votre mère, il y a aussi de très belles planches. Vous êtes sous le piano à ressentir les vibrations justement de ce magnifique piano à queue. Et puis aussi une relation, vous, à la musique, à la guitare et notamment au jazz manouche que vous racontez dans le roman.
Disons qu'au moment où je l'ai dit, c'était un pur mensonge. Après, je me suis rattrapé, j'ai appris l'harmonie et j'ai appris le jazz avec sa complexité, mais à la guitare. Au piano, je fais quelques trucs, mais je suis pas capable de faire du Bill Evans ou... Bref. Oui, le piano, c'était l'instrument pour moi sous lequel je pouvais me cacher et ressentir cette espèce de vibration qui mettait mon propre corps en vibration et je pouvais quasiment m'endormir pendant que ma mère donnait ses cours. Mais c'était aussi un endroit d'improvisation. Je laissais mon pied sur la pédale forte comme ça, puis j'improvisais pendant des heures, n'importe quoi. Enfin, et ma mère me disait non, mais tu peux pas faire ça. Laisser ton pied appuyé comme ça, c'est pas possible, c'est inaudible. Et puis donc elle a essayé de me donner des cours, c'était pas possible. On a tout essayé, quoi. Puis à 12 ans, je lui ai dit non, maman, en fait, je vais être artiste peintre. Comme papa, je veux pas faire de musique. Et là, je lui ai versé une larme. C'était vraiment un moment très très difficile. Et donc, je pense que c'est avec plaisir qu'elle m'a vu revenir à la musique, mais à ma façon, avec la guitare et avec mon système. C'est que je connais pas le solfège au sens strict du terme, mais d'autres façons de l'appréhender.
Il y a une histoire, enfin un moment aussi très beau d'initiation, qui est le moment où vous jouez pour la première fois au Puce de Saint-Ouen,
ouais.
Avec, si je me trompe pas, Ninive Garcia lui-même.
Ouais, c'est ça.
Et ça devait être quand même un moment très spécial.
Bah oui, puisque je sais pas à quel âge je devais avoir, 6, 7, 8 ans, mon père était enseigné aux Beaux-Arts de Saint-Ouen, il y avait une section pour enfants, et donc il donnait des cours, et donc je venais quand même, j'assistais aux cours. Je devais pas dire que j'étais son fils. Et le midi, enfin, on allait bouffer une frite à la Chope des Puces, qui à l'époque était une espèce de rade hallucinant, où il y avait Mondine et Ninine, père et fils. Et je me prenais vraiment le choc des amplis, quoi. Comme le choc du piano, comme le choc des balles de Verdun, ou tout ce qui peut mettre d'un seul coup le corps en mouvement d'une manière ou d'une autre. Là, ça me le rendait vivant, même si c'était assez effrayant. Et donc, la première chose que j'ai eu envie de faire quand je me suis mis à la guitare, et que les doigts ont commencé à galoper un peu, c'était du jazz manouche. Et quand je suis arrivé à la Chope des Puces un peu plus tard, donc j'avais 18 ans, je sais pas, 17 ans, que Ninine me dit, tu fais du jazz manouche, vas-y, prends la guitare de Mondine. Et Mondine me regarde comme ça, c'est horrible, j'ai fait le moment, mais absolument, j'étais pétrifié, quoi. Et j'ai dû faire vraiment de la merde, d'ailleurs. Mais je jouais avec Ninine, quoi. Le type que j'avais vu et que j'avais admiré dans mon enfance, c'était sur les mêmes amplis et sur les mêmes guitares. Donc c'était effectivement un grand moment initiatique de début. Et il m'a dit d'ailleurs quelques paroles sages de manouche, comme ça, sur la rythmique et l'importance du rythme.
Oui, c'est, puis sur la passion pour Django Reinhardt, qui était vraiment un peu comme la figure tutélaire.
Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent chez Manouche, c'est le fait que, effectivement, Django et Dieu sont presque parfois confondus.
Ouais. Et Ludovic Debern, donc, il y a le côté du père, la peinture, le dessin, et puis le côté de la mère, la musique. C'est fascinant d'avoir conservé, presque à égalité, ces deux branches, maternelles et paternelles.
Oui, effectivement, je suis pas allé chercher très très loin, j'ai manqué d'inventivité sur ce coup-là. Je sais pas si véritablement, vu les conflits que j'avais à faire de la peinture, enfin, je dirais que mon père, c'était si compliqué pour lui même que je sois aussi artiste. Il y avait vraiment un rapport comme ça de dualité. Je suis pas certain. Finalement, est-ce que j'ai pas fait du dessin pour plaire à ma mère, étant donné que ma mère avait épousé un artiste peintre? Enfin, dans l'idée d'un enfant, finalement, ça semblait assez logique de séduire sa mère en faisant la même chose que son père. Mais c'était bien sûr aussi pour aller sur les pas de mon père et essayer de retrouver, de trouver une connivence. Et quant à ma mère, oui, voilà, j'ai eu la chance qu'elle me conduise à Salle Gaveau, à la Salle Pleyel, et j'ai pu aussi entendre à la fois du baroque et en même temps du Ligeti et de la musique contemporaine, et tout ça était dans un même bain, et j'ai eu cette chance d'avoir cette liberté auditive, quoi.
Ludwig de Bern, peut-être un des moments les plus, pour moi en tout cas, les plus émouvants du livre, presque jusqu'aux larmes. C'est un dessin au moment du décès de votre mère, où vous dessinez votre père à côté de votre mère au moment où il se réveille et découvre qu'elle ne respire plus.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des difficultés à rentrer comme ça dans l'intime, dessiner ces gens qui sont plus...
Ces gens ou ces moments?
Les deux, ouais.
Non, parce que finalement, c'est le moment aussi qui est singulier. C'est vraiment le moment où la respiration s'arrête. Et d'ailleurs, je la représente pas à ce moment-là, ma mère. Parce qu'en fait, je ferme la porte et je sais qu'elle va... Je sais que c'est la fin, en fait. J'ai l'intime conviction que c'est la dernière fois. D'ailleurs, je suis devant cette espèce de spectacle flamand, bruegelien. Enfin, on est dans une espèce de truc hallucinant de cette mère si maigre, de mon père qui perd son dentier. À la fois, j'ai presque eu envie de rire tellement c'était beau d'humanité, de grotesque, quoi. Cette espèce de raccourci total de la vie qui peut avoir dans le moment, son moment final, encore de l'humour. Et oui, ça s'est pas exactement passé comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu deux moments. Ça aurait pas eu beaucoup d'intérêt pour l'histoire que je dise que mon père m'a appelé deux fois cette nuit-là. C'était plus fort de dire qu'il y avait eu un seul moment et puis ça revenait au même au final. Voilà. Oui, ce sont des moments importants, mais aussi qui permettent de poser les choses. On peut les poser en parlant à son psychanalyste, on peut les poser aussi dans un livre. Et puis, ce qui était important, c'est de ne pas les laisser comme des poids au lecteur. Enfin, d'essayer, autant pour moi-même que pour l'autre, qu'il y ait une forme d'accompagnement et que ça suscite de l'imaginaire et du possible, même dans une finalité telle que la mort.
Merci beaucoup, Ludwig de Bern, de nous avoir rendu visite.
Merci.
Le roman graphique La cendre et l'écume est paru aux éditions Cornelius. Cette conversation littéraire était réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Jason Taous à la technique. Merci à Aurélie Marsac qui m'a aidé à préparer cette émission que vous pouvez réécouter et même podcaster sur le site de France Culture et l'appli de Radio France.